Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Les contribuables à vos chéquiers, on va tous contribuer à ce que la fonderie Horn puisse continuer de polluer l'air de Rouyn-Noranda. C'est ce qu'on a appris hier, Olivier Bourque.
Ouais, puis regarde, Yasmine, regarde, je suis en train, les gens là, qui sont évidemment sur la radio visuelle peuvent voir, je suis en train d'écrire mon chèque pour Glencore. C'est une entreprise qui est très pauvre, hein. Tu comprends, il faut les aider.
Quelques milliards de dollars.
Oh, seulement quelques milliards de dollars, effectivement. Je vais utiliser l'expression de mon collègue Michel Girard. Attention, contribuables, vous allez payer pour Glencore. On est en train, Yasmine, de préparer l'opinion publique à cela. Évidemment, ça ne sera pas annoncé avant les élections.
Ben non.
On va attendre après les élections. Mais franchement, de plus en plus, on pense que ce sont les contribuables qui vont payer, en tout cas, une partie là, du montant de 500 millions de dollars. Et je continue de croire, Yasmine, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vraiment le dossier auquel le gouvernement ne s'attendait pas cet été. C'était dans son angle mort, la question de la fonderie Horn. C'était vraiment, donc au début, un enjeu qui était plus local, là qui est devenu national, et même, on pourrait dire, très national, lorsque ça fait toutes les chaînes d'information en direct, et puis longtemps, hier, on a présenté la conférence de presse pendant plusieurs minutes, là. C'est parce que c'est devenu donc un enjeu qui est national. Et ajouté à ça, Yasmine, je sais pas si tu as vu ça, toute la question des claims miniers, des droits miniers.
Oui.
On va en parler beaucoup de ça, là. Donc ça, c'est vraiment des territoires où des entreprises minières peuvent faire de l'exploration. Avec les véhicules électriques, on veut aller chercher donc du graphite, par exemple, du lithium. Et l'affaire, c'est que ça se passe dans le sud du Québec. Ça se passe pas dans le Grand Nord, là. Ça se passe dans le sud du Québec. Alors, il y a des gens qui seront dérangés par ça. Je sais pas si tu te rappelles, les gaz de schiste, ça avait commencé gros de même. Et ça avait grossi.
Et c'est drôle parce que on a voté récemment une loi à l'Assemblée nationale pour interdire toute exploration et exploitation de gaz naturel ou d'hydrocarbures. Mais ça ne touche pas évidemment les ressources naturelles qui se retrouvent dans le sous-sol. D'habitude, on pense que c'est loin, mais là, ça va être dans notre cour, là.
Dans notre cours, exactement. Donc, moi, je pense que tout ce dossier-là, là, mettons Glencore, les droits miniers, les clés miniers, t'as vu les entreprises aussi qui ont le droit de polluer, là, la CAQUA de 89. J'ai l'impression que c'est un dossier qui est peut-être plus compliqué pour le gouvernement qu'il n'y paraît. Alors, c'est pour ça qu'hier, on a vu des sorties, bon, le ministre de l'Environnement, Monsieur Legault également. Je veux pas trop revenir sur ce qui a été annoncé hier. On a entendu beaucoup. Donc, 500 millions de dollars, c'est ce qu'on va mettre du côté de la fonderie pour se dépolluer. Hein, pour abaisser les émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air sur 5 ans. Ça déçoit énormément les gens là-bas, donc à Rouyn-Noranda. On aurait aimé que ça se fasse beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas de chemin également pour se rendre à la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. Alors, il y a vraiment de la déception du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Cela dit, Yasmine, on va se poser la question, puis la vraie question, là, c'est qui va payer pour tout ça, pour cette entreprise-là?
Ça va être un savant mélange de contribuables, d'entreprises privées, ça risque d'être particulier. Puis je sais pas si le gouvernement se rappelle lorsque Philippe Couillard a décidé d'allonger un chèque de 1,3 milliard de dollars à Bombardier. La crise, la commotion que ça avait créée. J'ai l'impression que lorsqu'on va émettre un chèque à Glencore, ça va être pire que pour Bombardier.
Oui, tu as tout à fait raison. Puis tu te rappelles après ça, les primes qu'on s'était payées chez Bombardier, notamment M. Beaudoin, qui était président du conseil d'administration. Encore là, on avait entendu des crises. Et avec raison. Et avec raison, franchement. Parce que les gens se rendent compte de plus en plus qu'on verse des gros chèques, on aide beaucoup des entreprises qui n'ont pas besoin d'aide. Hier, du côté de Glencore, ce qu'on a dit, c'est qu'on est en discussion avec le gouvernement. Il n'y a pas de demande formelle qui a été faite au gouvernement. M. Legault l'a confirmé. Mais on sait que le gouvernement du Québec est prêt à mettre de l'argent donc pour aider Glencore à se dépolluer. Ça, c'est quand même donc la première chose. Mais c'est une multinationale qui, franchement, n'a pas besoin d'aide, qui est anglo-suisse. Donc, ils ont leur société mère qui est en Suisse, un endroit qui, on le sait, Yasmine, est très avantageux fiscalement. Hein? Et même dans le passé, ils avaient utilisé toutes sortes de stratagèmes, en fait, ce qu'on appelle de l'évitement fiscal. Il y a certaines de leurs filiales qui sont situées notamment donc en Australie, en Zambie. La filiale vendait du cuivre à petit prix, donc à la société mère en Suisse, qui, elle, après ça, le vendait à fort prix, la vente finale. Si bien que la vente finale se faisait dans un endroit où la fiscalité est très, très avantageuse, pour ne pas dire que c'est un paradis fiscal. Or, dans les endroits où sont situées les filiales, ben le fisc se rendait compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qu'on perdait, alors, notamment donc en Afrique. Alors, ils ont déjà utilisé des stratégies d'évitement fiscal. Glencore, le nom avait été nommé, écoute ça, 34 000 fois dans les Paradise Papers, qui mettaient à jour les sociétés qui utilisent des paradis fiscaux. Alors, c'est une entreprise qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et j'ai quelques chiffres pour toi. Pour les 6 premiers mois de l'année, Glencore, écoute bien, les profits qu'ils ont enregistrés, 19 milliards de dollars. C'est un record, soit dit en passant.
Ils ont évidemment besoin d'aide, Olivier. 19 milliards, c'est pas grand-chose.
Je sais, moi, ça me fait de la peine. Moi j'y pense sincèrement. Regarde, je te jure, j'ai une petite larme qui coule. Ils vont verser à leurs actionnaires 4 milliards de plus, 4,5 milliards de plus même, étant donné leurs très, très bons résultats en dividendes. Moi, j'aurais envie de leur dire, ben, prenez cette partie-là que vous allez verser aux actionnaires, puis assainissez votre usine.
Tu sais, 500 millions dans le 4 milliards, là, tu sais, ça se prend bien là. Il n'y a personne qui va mourir de faim dans vos actionnaires si vous décidez d'investir 500 millions pour l'assainissement de l'air et de vous maintenir sur le territoire québécois à plus long terme pour que vous puissiez continuer de faire de l'argent sur notre dos.
Oui. Oui, exactement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la même équation que toi. Alors, est-ce que vraiment ils ont besoin d'argent public? Poser la question, franchement, c'est y répondre. Et te dire, en terminant, que c'est pas la première fois que l'usine profite des largesses de l'État. Dans les années 80, nous, on avait écrit là-dessus il y a quelques semaines, ça s'appelait la Noranda.
Oui.
Lorsqu'on va à Rouyn-Noranda, les gens souvent font référence à l'usine, ne visent pas la fonderie 1, ils vont dire la Noranda, parce que longtemps, c'était le nom qui était utilisé. C'était notamment à ce moment-là la propriété de la famille Bronfman et de la Caisse des dépôts et de placements. Et ils avaient reçu de l'argent, encore là, pour s'assainir. On était dans l'époque des pluies acides, là. Alors là, il faut reculer à la fin des années 80, M. Mulroney, tout ça. Et le gouvernement du Québec leur avait accordé un prêt qui était devenu un don. Alors ça, c'était le gouvernement Bourassa de l'époque. Alors, ils ont déjà reçu énormément d'argent. Là, c'est sûr que de l'autre côté, Glencore, de plus en plus, on agite les épouvantails, dire on a besoin d'argent public, sinon on va fermer. C'est sûr et certain que si on décidait de fermer ces installations, imagines-tu les coûts de décontamination que ça coûterait? Et ultimement, Yasmine, qui encore une fois paierait pour ça? Je m'excuse d'utiliser cette expression, mais ça serait le bon cochon de contribuable. Encore une fois, qui devrait sortir son chéquier pour aider l'entreprise et décontaminer les terrains? C'est ça qui est choquant.
Tous les chemins mènent vers la poche du contribuable, c'est ma nouvelle devise. Et hier on parlait d'un punch que je voulais pas que tu vendes en fin d'émission, une grosse usine de composants pour les véhicules électriques s'installe au Québec.
Oui, on a fait de l'effeuillage médiatique hier, Yasmine.
Denis Coderre sort de ses corps.
Oui, c'est ça exactement. Comme on dit des fois, Denis, c'est un peu le roi du brassage d'air. Alors, on a fait un peu de brassage d'air, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que ProEV, c'est une entreprise qui a inauguré en fait son usine, qui va devenir la plus grande usine, c'est ce qu'ils disent en fait, la plus grande usine de composantes pour les véhicules électriques en Amérique du Nord. Tu sais, au Québec, on fabrique pas de véhicules électriques. Ça se passe vraiment en Ontario. Puis depuis plusieurs années, on a décidé du côté du Québec, c'est pas vraiment, on pourrait dire, donc notre core business. Hein. C'est pas ce qu'on a privilégié. On l'a privilégié davantage, donc l'aéronautique. Mais on va faire beaucoup de composantes électriques. Alors eux, c'est du câblage. Donc entre la batterie et les différentes parties de la voiture, on parle d'une création d'emplois 250. Alors, c'est quand même intéressant et c'est dans l'arrondissement Saint-Laurent. Alors, ce sera donc lors des prochains mois, finalement, là, qu'on va mettre en place cette usine. C'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que c'est une filière qui est intéressante.
C'est une excellente nouvelle. Évidemment, ça se rajoute à la batterie dont on veut devenir champion, le lithium notamment, le graphite dont on a besoin pour faire des batteries. Sinon, parlons de... Vous allez revenir cette fin de semaine, me semble, dans le Journal de Montréal, sur la pénurie de main-d'œuvre et surtout de l'apport des employés de plus de 60 ans.
Oui, on en a presque pas parlé de la pénurie. Hein,
non, mais je trouve qu'on en a pas du tout parlé. Puis je trouve que faudrait peut-être le dire au gouvernement qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient dans l'air. Là, tu sais, c'est comme.
Oui, puis il y a comme on appelle une courbe démographique hein, qui est implacable.
Hein, on peut pas lutter contre ça.
C'est difficile à lutter contre ça, sincèrement. Il y a des produits pour arrêter de vieillir, supposément, là, mais enfin, bref. Alors, c'est difficile pour le Québec parce que c'est une société qui est très vieillissante, mais de plus en plus, ce qu'on est en train de faire, c'est de stimuler le travail, le maintien au travail ou le retour au travail des gens qui ont, par exemple, 60 ans, 65 ans. Donc, on aura effectivement donc des textes là-dessus en fin de semaine dans le journal. Et en terminant, seulement de dire... On dit 65, 70 ans même, mais j'ai vu un reportage sur la société d'État hier. Alors, c'est une dame, imagine-toi, qui a 83 ans, qui est retournée au travail. Elle, son rêve, Yasmine, c'était de vendre des beaux vêtements. Toute sa vie, elle voulait évoluer dans une boutique. Elle aimait les belles choses. Sa mère également racontait ça. C'est un personnage qui est formidable. 83 ans, elle a décidé de retourner au travail. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a 83 ans qui peut retourner au travail, là. Mais franchement...
Faut être en forme.
Mais elle, vraiment, tu sentais que c'était une passion. Elle voulait toute sa vie vendre des beaux vêtements. Alors, elle travaille, je pense, dans une boutique à Trois-Rivières. C'était fort joli et je trouvais que c'était un exemple qui exprimait bien bon ce qu'on va également démontrer en fin de semaine. Mais quand même, 83 ans, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut travailler à ce temps-là.
On la salue et on espère pouvoir marcher dans ses pas lorsqu'on sera à cet âge-là. Olivier Bourque. On va se reparler probablement lundi de ce dossier que vous nous préparez dans le Journal de Montréal pour cette fin de semaine. Je te souhaite un excellent week-end et on se parle lundi.
Bon week-end à toi. Bye-bye.